Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. La Journée internationale des droits des femmes, début mars, nous rappelle toujours l'importance de donner de plus de visibilité aux femmes scientifiques. Cette année de conquête de l'espace avec le succès de la mission martienne Perseverance, nous sommes nous aussi tombés sous le charme de Farah Alibé, cette Québécoise ingénieure en aérospatiale à la NASA qui pilote le robot envoyé sur Mars pour explorer sa surface et déterminer s'il y a eu de la vie sur la planète rouge. Alors, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux femmes de la conquête spatiale, astronomes, astrophysiciennes, ingénieurs. Nous les connaissons encore bien mal, tout comme leurs défis. Nous allons dans Cache Vote pour la science lever un peu du voile de ces figures de l'ombre. Restez là. Les femmes de la conquête spatiale restent encore trop souvent méconnues. Elles sont pourtant nombreuses à rayonner dans l'ombre et sans elles, il serait difficile d'imaginer les voyages spatiaux ou même d'envoyer des robots sur Mars. Nous en parlons avec Myriam Latulippe, astronome et animatrice scientifique au planétarium Rio Alcan. Bonjour.
Bonjour.
On parle aussi des femmes avec Marie-Michèle Limoges, astrophysicienne et directrice contenu scientifique et formation au Cosmodome. Bonjour.
Bonjour.
Et d'Ève Langelier, professeure titulaire au département de génie mécanique de l'Université Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec. Bonjour.
Bonjour.
Donc, astronome, astrophysicienne, ingénieur spatial, les femmes sont très nombreuses à contribuer à la conquête spatiale depuis ses débuts. Il y a des femmes charismatiques comme l'ingénieure en aérospatiale Farah Alibé et d'autres aussi inspirantes scientifiques, mais qu'on connaît moins. Ça reste des milieux où c'est encore difficile de faire sa place, comme nous allons voir. Pour commencer, Madame Latulippe, présentez-nous peut-être la Québécoise Farah Alibé.
Oui, mais pour ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, donc Farah Alibé, elle travaille comme ingénieure à la NASA, plus particulièrement au Jet Propulsion Laboratory. Et elle s'occupe, entre autres, de conduire la nouvelle astromobile Perseverance qui est à la surface de Mars.
Et elle a aussi repoussé, en fait, certaines limites. Professeur Langelier, quel serait l'impact de Farah Alibé et de Perseverance pour les jeunes filles?
Mais c'est un super beau modèle. Donc, c'est une femme qui a réussi à faire sa place. C'est une femme qui s'exprime super bien, qui est super charismatique et qui montre que c'est possible. Puis elle permet aussi de briser les stéréotypes. Elle permet de montrer qu'il y a de la place pour les femmes aussi à ces endroits-là. Puis aussi, elle permet de faire connaître le génie. Notamment, puis ces domaines d'application, c'est un domaine qui est très, très méconnu des jeunes, mais pas juste des jeunes, en général, là, c'est très vague, le génie, peut-être à part le génie civil qui fait des constructions de plus grande taille, là, mais oui, donc ça donne une vision, ça met un visage, ça permet de se projeter en avant dans ces carrières-là.
Oui, on en veut des jeunes femmes dynamiques, finalement, en génie. Madame Limoges, il y a aussi l'astronaute canadienne et ingénieure en mécanique, Jennifer Sibé-Gibbon, je pense, qui pourrait être un autre modèle aussi pour les filles.
Oui, Jennifer Sibé-Gibbon, qui se fait appeler Jenny. Oui. Donc, Jenny Sibé-Gibbon, qui est une des deux astronautes qui a été embauchée dans la dernière campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne. Elle a été recrutée en juillet 2017, elle et son collègue Joshua Kutrick. Et puis, Jenny Sibé-Gibbon, si on s'intéresse à son parcours, on se rend compte que c'est une femme complètement extraordinaire. Donc, c'est une Albertaine. Elle est née à Calgary, en Alberta. Et puis, elle a fait son doctorat en ingénierie à l'Université de Cambridge, rien de moins. Elle a obtenu plusieurs prix de la jeune ingénieure de l'année, de l'Institute of Engineering and Technology, prix du jeune ingénieur de l'année de la Royal Academy of Engineering. Elle était professeure adjointe à l'Université Cambridge, ça m'impressionne vraiment. Mm-hmm. Elle s'intéressait à la combustion interne des moteurs Et puis, c'est grâce notamment à cette expérience-là, comme professeur à l'université, comme chercheur en combustion interne, ses recherches qu'elle a fait aussi en apesanteur sur la combustion, qui l'ont mené notamment à décrocher son poste d'astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est une jeune femme très dynamique. Elle vient de terminer son entraînement de base à la NASA et puis elle est en attente d'une mission. On a très hâte de pouvoir la suivre lorsqu'elle sera assignée à une mission. C'est assurément un exemple pour nos jeunes filles qui est très fort et qui est très inspirant.
Oui, je voudrais que vous entendiez encore nous parler d'autres femmes inspirantes. Il y a des programmeuses aussi, on passe au film Les figures de l'ombre ou alors d'autres qui se consacrent à la recherche.
Oui, si vous voulez, on peut parler des figures de l'ombre. Bon, vous savez, quand j'étais plus jeune, moi, j'ai été beaucoup inspirée par les premiers astronautes, les premiers ingénieurs de la NASA, mais avoir su qu'il y avait eu des femmes qui étaient derrière tout ça, je crois que ça m'aurait donné encore plus d'espoir puis de modèles à suivre. Donc, je vais parler des trois femmes qu'on voit dans le film Les figures de l'ombre, qui est une histoire réelle, vécue. Donc, c'est l'histoire de trois femmes noires qui ont travaillé à la NASA comme human computers. Ils les appelaient des calculatrices humaines avant l'invention des ordinateurs et avant que les ordinateurs soient utilisés à grande échelle. Eh bien, on calculait les orbites à la main, donc les orbites des vaisseaux spatiaux. On faisait des calculs aérodynamiques, tout ça à la main. Donc, on avait besoin des femmes. Alors, on a Katherine Johnson, Matthew Jackson et puis Dorothy Vaughan qui ont travaillé à la NASA dans les années 50 et 60. Si on s'intéresse à Katherine Johnson, par exemple, c'est une mathématicienne. Puis, bon, ben, ces trois femmes-là ont en commun qu'elles ont enseigné les mathématiques à l'école. Mais Katherine Johnson, après avoir enseigné les mathématiques, elle est entrée à la NACA, donc l'ancêtre de la NASA. Et puis, elle a eu... Elle travaillait au département de guidage et de navigation parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de gens pour faire ces calculs astronomiques, si on peut dire. Donc, elle travaillait au sein de ce département. Et puis, elle s'est rendue indispensable, même après l'arrivée des ordinateurs. Donc, il y a la fameuse citation de John Glenn, le premier homme à faire une orbite complète autour de la Terre, qui ne voulait pas se fier au calcul des premiers ordinateurs. Il a demandé à Katherine Johnson de revoir les chiffres et elle a dit, si les chiffres sont bons, alors je suis prêt à partir. Imaginez, il fallait que Katherine repasse les chiffres de l'ordinateur, tellement elle était compétente. Et puis, en 2015, Barack Obama lui a remis la médaille de la liberté, qui est la plus prestigieuse récompense civile américaine.
Oui, il y a quelques autres noms qu'on pourrait parler. Roberta Bondar, qui moi, je trouve aussi un beau modèle aussi. Mais Madame Latulippe, à l'Université Montréal, il y a une autre femme inspirante pour vous. C'est Julie Lavatec-Larondeau. Expliquez-nous pourquoi c'est votre modèle à vous.
Mais Julie Lavatec-Larondeau, c'était en fait ma directrice de maîtrise quand j'étais à l'Université de Montréal. Donc, c'est une femme très inspirante. Elle a fait son bac et sa maîtrise à l'Université de Montréal en physique. Ensuite, elle est allée faire son doctorat à Cambridge. Elle aussi, comme Farah Alibé, d'ailleurs, elle a fait son baccalauréat à Cambridge avant d'aller au MIT. Mais donc, Julie, elle est allée à Cambridge faire son doctorat sous la supervision de Andy Fabian, qui est une sommité dans ce domaine de l'astrophysique, plus particulièrement dans l'étude des amas de galaxies et des trous noirs supermassifs. Et ensuite, elle est allée, elle a eu une bourse postdoctorale, le Einstein Fellowship de la NASA, et elle est allée faire son postdoc à Stanford avant finalement d'être embauchée à l'Université de Montréal comme professeure adjointe. Donc, c'est vraiment une femme très, 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 très intelligente, très, très compétente. Elle a un cerveau, une façon de penser, de comprendre l'univers qui est incroyable. D'avoir une discussion avec elle sur comment l'univers fonctionne, c'est assez fascinant. Et en plus d'être une femme assez jeune aussi, qui est devenue professeure, elle est très impliquée dans la diversité. Elle a fondé le comité diversité physique qui s'appelle DEFI à l'Université de Montréal dans le but de promouvoir et de mettre l'accent sur la diversité dans le monde de la recherche et plus particulièrement dans le monde de la physique.
Oui, lorsqu'on parle de femmes, il faut aussi parler des difficultés que rencontrent les femmes en sciences. Rappelez-nous, professeur Langelier, ce qui contribue à peut-être à les désintéresser des sciences et des technologies, les STEAM.
Donc, désintéresser les jeunes filles, il y a plusieurs choses, je vais en énumérer quelques-unes. Il y a les stéréotypes. Ah, donc déjà, au début du secondaire, c'est les gars sont bons en maths, puis les filles sont bonnes en langue. Ça, c'est des stéréotypes qu'il faut briser parce que les filles peuvent être aussi très bonnes en maths et en sciences. Il y a aussi l'image qu'on se fait de la personne scientifique. Quand on demande à un jeune enfant, vers 4-5 ans, de dessiner une personne scientifique, il va dessiner quelqu'un qui lui ressemble. Mais à mesure que la personne vieillit, à cause de ce qu'on reçoit de la société, de notre environnement, on commence à dessiner un homme blanc, avec des lunettes, même les cheveux tout ébouriffés, puis un peu fou avec un sarrau. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on a. Donc, si on parle du génie, par exemple, il y a une grande méconnaissance des carrières. Il y a une méconnaissance des carrières aussi en sciences. Et ça, c'est on en fait à l'école, mais de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme travail, c'est deux choses complètement différentes. On oublie aussi qu'il y a de la place pour les compétences humaines en sciences et en génie. Donc, on peut aider le monde, on peut travailler en équipe, avoir de la créativité aussi dans ces domaines-là qu'on oublie complètement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire?
Oui.
L'état d'esprit. Donc, on sait que, par exemple, les jeunes filles vont manquer plus de confiance en elles que les jeunes garçons. Puis, elles vont s'auto-exclure des sciences parce qu'elles ont l'impression qu'il faut être vraiment brillant pour aller là. Mais comme elles vont s'exclure, par exemple, de la philosophie, parce qu'on pense qu'en philosophie, il faut être extrêmement brillant aussi. On peut continuer?
Madame Limoges, peut-être que vous pouvez compléter peut-être un petit peu. Vous nous avez parlé de femmes brillantes, mais il y a encore beaucoup de perceptions, de préjugés, de manque de confiance ou de méconnaissance.
Oui, tout à fait. Vous avez ouvert une belle porte pour... vous avez parlé des stéréotypes. C'est vrai, hein, encore aujourd'hui, il faut se battre pour que, si on veut représenter un scientifique, parce que c'est le scientifique que vous venez d'écrire, là, qui est dessiné en premier. Donc là, il faut dire, ben non, pourquoi c'est pas une femme? Pourquoi est-ce qu'elle est pas... Pourquoi est-ce qu'elle porte un sarrau? Pourquoi est-ce que là, on dessine une femme? Mais pourquoi elle est maquillée? Pourquoi est-ce qu'elle serait pas... Donc, il faut vraiment se battre contre les stéréotypes. Mais il y a aussi le problème auquel on s'attaque aujourd'hui, qui est la sous-représentation des femmes dans ces métiers-là. Donc, il y a aussi le fait que très peu de femmes sont des ingénieurs. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y aurait seulement 30% des femmes, des ingénieurs qui sont des femmes. Alors, on a l'impression qu'on les voit moins. C'est pour ça qu'on aime bien Farah Alivé parce qu'elle représente une ingénieure, puis une ingénieure qui brise le stéréotype. Et puis, on peut aussi parler de biais. Donc, on peut parler de la discrimination basée sur les genres. Vous l'avez dit, là, les enfants vont dessiner plus souvent des garçons que des filles quand on parle de scientifiques, mais pour ce qui est de la discrimination des genres, ça sort d'un article de 1997, mais pour être considérée aussi compétente qu'un homme, les femmes chercheuses en médecine devaient publier 3 fois plus d'articles dans Nature ou Science que leurs collègues masculins, puis 20 fois plus d'articles. 20 articles de plus, excusez, donc 3 articles de plus dans Nature ou Science et 20 de plus dans les articles spécialisés quand ils appliquaient pour une bourse dans le domaine médical. Donc ça, ce n'est pas des exemples criants de discrimination, mais ça date de 97. Donc on espère que ce chiffre-là a considérablement réduit et puis que les femmes sont basées sur autant d'articles que les hommes quand ils appliquent pour des bourses ou des postes. Mais puis aussi, on pourrait parler d'intersectionnalité.
Intersectionnalité.
On peut parler des femmes qui doivent se battre contre ces préjugés-là, ces stéréotypes-là, ces barrières-là. Mais si on est une femme de couleur ou une femme qui vient d'un autre pays ou une femme qui a un trouble du spectre de l'autisme, par contre, alors là, on a des barrières de plus Et puis, ça permet de, ben, ça, je suis certaine que ça contribue à diminuer le nombre de femmes qui veulent faire des carrières en sciences ou en génie. Et puis là, on parle même pas d'équité salariale.
Non, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore finalement. Madame La Tulipe, c'est seulement à l'âge adulte que vous vous êtes rendu compte que vous étiez une femme en sciences, en astronomie. Expliquez-nous. Quand vous étiez petite fille, non?
Oui, en fait, j'ai toujours su que j'étais une fille et plus tard une femme, mais je m'étais jamais rendu compte un peu que ça affectait un peu qui j'étais. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, ma mère, c'est une scientifique, donc j'ai eu quand même ce modèle-là. Et mon père m'encourageait de poursuivre peu importe ce qui m'intéressait et si c'était les sciences, d'y aller particulièrement. Mais c'est plus tard, à l'âge adulte, que je me faisais poser des questions parce qu'en étant une femme en sciences, en physique, en astrophysique, je me faisais demander donc pourquoi en tant que femme est-ce que je suis allée vers cette voie-là? Et j'ai toujours trouvé ça un peu étrange comme question parce que jamais, à aucun moment, le fait que je sois une femme, c'est venu en jeu dans mon questionnement de carrière ou dans ce qui me passionnait. Et c'est seulement plus tard, en fait, que lorsque je donnais, par exemple, des conférences, que ce soit surtout, par exemple, grand public, je suis une femme, je suis jeune, que je me suis rendu compte, en fait, que je me faisais poser des questions souvent par des hommes plus vieux. Et ce genre de questions-là, on sait pertinemment qu'ils ne l'auraient pas posé si c'était quelqu'un qui leur ressemblait, si ça avait été un homme plus âgé qui avait donné la conférence. Le genre de questions qui veulent essayer de te piéger un petit peu pour montrer qu'ils savent plus que toi ou ces genres de choses-là. Donc, c'est plus, moi, c'est plus à l'âge adulte que j'ai réalisé, en fait, que certaines personnes avaient des biais et ils ne me voyaient pas comme leur égal, en fait.
Oui. Professeur Langelier, quels sont les principaux défis que rencontrent les femmes? On a parlé de méconnaissances, de préjugés, tout ça, mais il y a aussi des barrières systémiques, il y a aussi de la sous-représentation.
Oui, tout à fait. On a parlé justement de l'absence de modèles. On a aussi ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Donc, si, par exemple, on dit avant un examen, les filles sont moins bonnes en maths, mais les filles vont performer moins bien à l'examen. Donc, si dans le milieu dans lequel on est, on a le sentiment que les gens nous jugent moins compétents, on risque de moins bien performer. Ça est une autre chose. Il y a les environnements hostiles, puis les micro-agressions, les petits commentaires ou les petites choses qui, des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend pas compte, mais font qu'à la fin d'une journée, à la fin d'une semaine ou d'une année, on se dit, écoute, je suis à la bonne place. Par exemple, travailler dans une usine où les équipements de sécurité sont seulement masculins, là où il n'y a pas de toilette. Un petit commentaire, t'es la seule fille, fait que c'est ça que tu vas prendre les notes. Vas-tu nous faire des motions? Ou, t'es la stagiaire, parce que tu peux pas être comme une ingénieure ou une scientifique. Ou des choses comme ça. Il y a aussi l'articulation travail-famille. Donc, oui, les femmes qui veulent avoir des enfants ou qui ont des enfants, c'est souvent à elles que revient aujourd'hui encore, même si ça a évolué, plus la charge familiale. Donc, ça peut être difficile des fois de conjuguer, si l'horaire de travail est très, très fixe, de conjuguer travail-famille. Mais des fois aussi, les femmes se sont organisées et sont prêtes à voyager. Puis ça, on leur offrira même pas un poste parce qu'on dira elle va refuser ou on lui offrira pas une occasion d'aller à une conférence ou d'aller faire un voyage à l'extérieur parce qu'elle a des enfants. Donc, on prend pour acquis. Les femmes ont souvent aussi moins accès au marrainage, au parrainage ou au mentorat. Pour différentes raisons, on leur offre moins et elles ont moins tendance à la demander. Et ça, c'est très, très aidant. Donc, on sait que les gens qui ont des parrains, marraines, des mentors vont progresser beaucoup plus vite en carrière. Je peux parler aussi, surtout quand on vient dans les postes un peu plus de direction, il y a ce qu'on appelle la double contrainte. Donc, on s'attend à ce qu'une femme soit chaleureuse, qu'elle soit tournée vers les autres, etc., qu'elle soit plus quelqu'un de collaboration. On s'attend à ce qu'un leader soit plus masculin, donc soit plus autoritaire, un peu plus tourné, pas vers lui-même, un peu plus directif. Et là, ben, si la femme doit agir comme ça, mais on s'attend à ce qu'elle soit comme une femme, et là, on lui dit, ben, elle est trop maternelle, elle est trop sentimentale, ou, au contraire, elle est trop froide, elle est trop rigide. Donc, c'est difficile de passer. On en a parlé aussi, je pense, des biais de similitude, peut-être. Donc, quand quelqu'un, c'est plus facile de on s'entend ou on se reconnaît plus dans quelqu'un qui nous ressemble, on est mieux avec cette personne-là, donc c'est plus facile de l'engager, je dirais. Il faut sortir de notre zone de confort pour engager quelqu'un qui nous ressemble pas. Ça, c'est très humain, là.
Oui,
donc ça, ce sont des exemples encore de freins là, pour la progression des femmes.
Oui. Madame Limoges, j'aimerais que vous me parliez aussi de l'ignorance des hommes du corps des femmes et de Sally Wright.
Oui, c'est une histoire qui est célèbre, qui est tirée de la biographie de Sally Ride. Donc, Sally Ride, qui était la première femme astronaute américaine à voyager dans l'espace. Donc, la deuxième femme après Valentina Tereshkova, la russe. Donc, Sally Ride doit partir pour 6 jours dans l'espace. Alors, on fait les préparatifs pour sa mission. Et là, il y aurait un ingénieur qui serait venu la voir avec 100 tampons, puis qui lui aurait demandé, est-ce que c'est le bon nombre de tampons? Non, c'est pas le bon nombre de tampons pour 6 jours. Puis ils se sont même pas demandé est-ce qu'elle serait dans cette partie-là de son cycle. C'est comme une femme part, on va stocker ça de tampons. C'est juste une anecdote pour souligner le fait que longtemps, dans les années 50, quand les Américains ont décidé que ce seraient les hommes qui passeraient les tests pour les astronautes, on pensait que les femmes ne seraient pas assez fortes ou n'auraient pas la résistance physique pour voyager dans l'espace. Mais parallèlement, il y a quand même des tests qui ont été faits avec des femmes. Et puis, 13 sur 19 de ces femmes-là avaient la capacité physique d'aller dans l'espace. Donc, puis ça a été complètement ignoré parce qu'ensuite, on a voulu que ce soit des militaires qui partent dans l'espace. C'était les hommes qui étaient les militaires. Mais on croyait là, que la femme n'était pas faite pour aller dans l'espace pour toutes sortes de raisons dont on s'intéressait pas vraiment à elle finalement. Puis au fait qu'elle était capable d'aller dans l'espace.
Oui, donc des attributs physiques. J'aimerais qu'on s'attarde peut-être à l'articulation travail-famille. Beaucoup de jeunes filles veulent faire une carrière, une belle carrière, mais aussi avoir des enfants, envisagent de mener ça en parallèle finalement. Madame Latulippe, je sais que vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que ça commence à être une de vos préoccupations à un moment donné de justement être capable de mener votre vie de famille et aussi une carrière intéressante avec des opportunités?
Moi c'est sûr, éventuellement, là, je suis pas encore rendue là, mais un jour, il faut quand même que je me pose la question quand un peu, puis je veux, j'ai un peu toujours la préoccupation de j'ai peur de manquer une opportunité si par exemple je dois m'absenter pour un congé de maternité ou des choses comme ça. Donc c'est toujours quelque chose qui me reste un petit peu en tête. J'ai la chance d'avoir des employeurs super sur ce côté-là, là, qui sont très accommodants, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, notamment pour des femmes chercheuses, par exemple. Lorsqu'ils ont des postes de chercheuses postdoctorales, c'est un peu plus compliqué d'essayer de faire une conciliation de travail-famille, d'avoir des congés de maternité. Donc, c'est toutes des choses qui viennent compliquer aussi la vie d'une femme qui veut avoir une carrière scientifique.
Oui. Professeur Langelier, j'aimerais qu'on revienne peut-être à certains chiffres, aux femmes scientifiques en chiffres. On l'a dit tout à l'heure, seulement 30% des ingénieurs sont des femmes. Je pense que c'est encore des bons chiffres. Et un récent rapport statistique de votre chaire pour les femmes en sciences et en génie montre que pour les inscriptions des femmes en sciences au collège et à l'université entre 2005 et 2020, ça s'est amélioré. Mais ça reste quand même très faible en génie, particulièrement en électronique et informatique, je pense que c'est 7%, ou en génie mécanique et industriel, 11%, ou en aéronautique, là, 13%, c'est vraiment très peu.
C'est très bas, effectivement. Donc oui, il y a une progression, mais la progression est très, très lente. Là. Si on continue à ce rythme-là, ça va prendre une centaine d'années, certainement, à atteindre la parité. Donc oui, puis c'est des domaines aussi, comme je disais tout à l'heure, qui sont méconnus. Puis on associe souvent, par exemple, le génie mécanique à la mécanique automobile. Mm-hmm. Mais c'est pas ça. C'est toute la mécanique automobile avancée. Oui, il y a des gens qui adorent et qui vont s'en aller dans la conception de voitures ou de moteurs, mais c'est tellement plus que ça, par exemple, le génie mécanique. Moi, je suis en génie mécanique, puis je m'intéresse aux plaies de pression, puis je m'intéresse aux blessures dans les tendons. Donc, c'est juste pour dire que ça peut être vague, beaucoup plus vaste. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est un défi qu'on a. Donc vraiment changer le nom accroche en partant. Oui. Puis en plus, ben c'est pas connu. Donc on a beaucoup de chemin à faire encore.
Oui, est-ce qu'il y aurait des lacunes dans l'enseignement ou la présentation de l'éventail des carrières scientifiques?
Oui, effectivement. Donc on commence à parler, là, je dirais, la technologie, c'est un peu l'enfant pauvre là, de ce qu'on appelle la science et la techno secondaire. Premièrement, il y a quelques lacunes dans le programme de formation, puis aussi les enseignants et enseignantes sont surtout formés en sciences et en éducation, très peu en technologie, ce qui fait que l'enseignement est, moins intéressant parce que moins calqué sur une réalité. Ça ne réfère pas à ce que fait vraiment un ingénieur, le pourquoi on fait les choses, puis on ne montre pas tout. La résolution de problèmes, on peut faire du génie, mais l'appliquer à un problème sociétal, c'est une façon de penser qu'on apprend, que ça, on ne le voit pas. Ça pourrait vraiment intéresser une plus grande diversité de personnes. Puis aussi, ben effectivement, là, hein, c'est les enseignants qu'on a, et enseignantes, c'est surtout des gens qui viennent de sciences, justement, même au cégep, à moins d'aller dans une technique. Et donc, on ne sait pas tout simplement ce que ça fait. Là. On a plus... Quoi qu'on n'a pas une très bonne vision de ce que fait, je pense, un scientifique ou une scientifique, mais on a encore une moins bonne vision de ce que fait quelqu'un en génie.
Oui, mais on pourrait parler maintenant de Farah Alibé, puis de Mars dans les classes. Je suis sûre que les élèves seraient intéressés, surtout les filles.
Ah, certainement, c'est le fun. La robotique, ça intéresse beaucoup les garçons. Ça intéresse aussi des filles, de plus en plus dans les compétitions de robotique, il y a de plus en plus d'équipes de filles ou d'équipes mixtes. Farah, c'est une personne très, comme on dit, charismatique, dynamique, avec les cheveux de couleur. C'est le fun, c'est attrayant pour les jeunes aussi. Là.
Oui, ce serait certainement. Ça prend des modèles, en fait, un peu plus. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Ève Langelier. Vous venez de l'entendre, professeure titulaire au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire pour les femmes en sciences et en génie du Québec, de Myriam Latulippe aussi. Astronome et animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan, et de Marie-Michèle Limoges, astrophysicienne et directrice du contenu scientifique et formation au Cosmodome. Voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, cette semaine, nous avons toujours des rediffusions et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Si vous l'avez aimée, comme toujours, partagez-la. Et en attendant, bonne semaine, portez-vous bien.